Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année puisque ça sera la première émission pour cette version 2016. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Et voilà, on se retrouve après les pauses de fin d'année qui sont à la fois des temps de retrouvailles, le temps de festivités, le temps de tordre le cou à l'année 2015 qui se terminait, qu'une année 2015 difficile. Et d'ailleurs, vous m'avez incité, Michel, en m'envoyant vos vœux, à réfléchir aux miens. Et donc au tournant de l'an, il est de coutume de jeter un coup d'œil dans le miroir des jours passés avant de regarder vers demain. Les images qui défilent dans le rétroviseur, hein, comme dans une voiture, de l'actualité mondiale 2015 n'incitent guère à la joie. C'est vrai qu'on a vu des colonnes de réfugiés sur les routes d'Europe, une explosion d'attentats terroristes à Paris notamment. Impossible de dire si 2016 verra moins de drames, moins de larmes. Mais je garde en mémoire ces paroles de Jacques Prévert dans son livre de poèmes Paroles qui dit « Il y a sur terre des gens qui s'entretuent, c'est pas gai, je sais. Il y a aussi des gens qui s'entrevivent, j'irai les rejoindre. » Alors on ira rejoindre la vie plutôt que la mort.
Voilà, Prévert dit « Il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. » Et je crois que c'est Trintignant qui reprend cette phrase dans son spectacle. Hein. Voilà, tâchons d'être heureux.
Tout à fait. Alors on continue à cheminer avec vous dans les méandres de l'amour, puisque c'est de cela dont il s'agit, des mots pour le dire, méandres de l'amour, Eros et Agapé. C'est le livre que vous avez écrit aux éditions, paru aux éditions Derby, et qui nous servent de semaine en semaine à visiter ces méandres, à découvrir les coins et les recoins, les choses qui sont dans l'obscurité, dans la semi-obscurité ou dans la clarté. Oui, parce que amour, c'est pas une seule définition, c'est pas un seul sentiment, c'est comme vous nous avez fait voir, mille et une facettes.
Voilà. Alors nous allons terminer le premier tiers de mon livre. Mon livre comporte trois parties. La première partie, c'est Eros ou l'amour de désir. La seconde partie, dont nous parlerons la prochaine fois, c'est Agapé ou l'amour de don. Et la troisième partie, c'est du bon usage de l'amour. En fait, il vaudrait mieux dire la deuxième partie, puisque seconde se dit d'une énumération où il n'y a que deux termes. Hein. Voilà. Donc nous terminons aujourd'hui la partie Eros ou l'amour de désir, le premier tiers du livre. Je rappelle ce que nous avons dit précédemment dans les émissions antérieures. Nous avons dit que dans Eros, il y avait l'amour de l'amour. On n'aime pas aimer quelqu'un. Mais on aime aimer le sentiment lui-même, ce n'est pas quelqu'un que l'on aime, on aime l'aimer, cette personne-là, vous voyez, hein. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. L'autre n'est donc un prétexte, nous avons dit aussi dans une émission que le désir Eros postulait l'absence de son objet, puisqu'on peut mieux penser à lui quand il n'est pas là que quand il est là, en quelque sorte, hein, c'est quelque chose de paradoxal. Nous avons analysé aussi les projections dont est fait Eros, hein, dont est fait le désir. Puis nous avons vu à propos de la sexualité que la démystification d'Eros en le ramenant à la pulsion sexuelle, à la libido, pouvait être une lucidité meurtrière. Là je reprends justement les sous-titres de mon premier chapitre, hein, Eros ou l'amour de désir, lucidité meurtrière. Nous avons analysé la loi d'attraction-répulsion qui fait que quand on aime quelqu'un, il y a des grandes chances qu'on n'en soit pas aimé. Hein. Les femmes sont comme notre ombre, disait Musset. Lorsqu'on les poursuit, elles nous fuient. Et lorsqu'on les fuit, elles nous courent après. Vous voyez ? Bon, donc attraction-répulsion. Nous avons aussi, dans une émission, analysé la notion de sidération, c'est-à-dire le fait d'être cloué sur place par la vision, mettons, de la beauté, la vision de l'astre ou de l'étoile, si douce, hein, si douce, et le désir désir desiderare, c'est une fois l'étoile perdue, vouloir la retrouver et regretter son absence. Desiderare a les deux sens, hein, désirer et regretter. Nous avons analysé aussi la part du souvenir dans le désir. Puis nous avons vu que dans le cas de Don Juan, le désir était cultivé pour lui-même et qu'il ne fallait pas opposer forcément Don Juan à l'amoureux romantique transi d'amour, hein, puisque tous les deux étaient dupes d'une illusion. La seule différence était que Don Juan était conscient de cette illusion, la cultivait constamment, alors que l'amoureux romantique ne se rend pas compte qu'il est victime de cette illusion, hein. Puis nous avons analysé l'opportunité qu'il y a dans la vie de souffrir ou de ne pas souffrir, et le paradoxe d'Eros, c'est ce que j'appellerais le masochisme affectif. On préfère souffrir d'amour plutôt que de vivre dans le néant, en quelque sorte, hein. Les ennuis d'amour ont au moins ceci de bon qu'ils n'ennuient jamais, en quelque sorte, hein. Bon, quand on a des ennuis, on ne s'ennuie pas, d'où le désir, en quelque sorte, de souffrir. Puis nous avons parlé du coup de foudre, et là Redouane et moi n'avons pas été d'accord. J'avais dit que il y avait peu de chances que le coup de foudre soit partagé, autant il est fréquent le coup de foudre quand il est unilatéral, autant, je ne sais pas si vous y avez réfléchi après ces vacances de Noël, Redouane, autant il est peu probable, sauf dans le cas que où le Père Noël viendrait nous visiter, si vous voulez.
Cupidon, Cupidon.
Cupidon, voilà. Donc, il est peu fréquent, à mon avis, que le coup de foudre soit partagé. Il est peu probable que deux êtres se trouvent au même endroit et au même moment, dans la même soif d'aimer, puisque Eros, c'est la soif d'amour, hein, voilà. Puis nous avons analysé la problématique du désir en ce qu'on peut s'y trouver partagé, hein, c'est-à-dire que l'on peut tenir à quelqu'un par le corps, mettons, mais on peut ne pas l'estimer, hein, le cœur et le corps ne parlent pas toujours le même langage, si vous voulez, d'où l'idée de conflit. Nous avons aussi analysé le totalitarisme d'Eros, c'est-à-dire le fait que Eros est tout ou rien, hein, et refuse la modicité quotidienne, en quelque sorte, hein, alors que Agapé, nous le verrons à partir de la semaine prochaine, lui admet le temps, hein. Et puis aussi quelque chose qui pouvait peut-être faire froncer l'œil aux censeurs, hein, et aux moralisants, c'est aux moralisateurs, c'est la perversion, le désir est perversion. On peut aimer une partie du corps de quelqu'un, il y a une partie de fétichisme dans Eros, et en particulier on peut l'aimer en le regardant dormir, hein, ce qui équivaut à une espèce de nécrophilie, parce que l'autre ne nous résiste pas. Et aujourd'hui, nous allons analyser le désir et le temps. Mais enfin, pour résumer tous ces axes de réflexion, il est évident qu'Eros, c'est le désir lui-même, et l'autre n'est pas vraiment connu, il n'est pas vraiment rencontré, hein. Alors, je ne condamne rien, mon livre n'est pas un livre de catéchisme, ce n'est pas un livre de morale, hein. Eros existe, certains ne quittent jamais cette sphère d'Eros, hein. Et alors on a le « ni avec toi, ni sans toi », hein, comme dans La femme d'à côté, par exemple, de Truffaut, hein. C'est un très beau film. Le lait du chèvrefeuille nous disait, mon ami, ainsi est de nous, c'est-à-dire il en est ainsi de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Eh bien, dans ce couple déchiré, hein, qui se trouve dans La femme d'à côté de Truffaut, le couple de Fanny Ardant et de Depardieu, je crois, les deux êtres ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre, mais aussitôt qu'ils sont l'un avec l'autre, ils se déchirent. Donc c'est ni avec toi, ni sans toi. Vous savez, vous connaissez Redouane peut-être l'apologue des porcs épics chez Schopenhauer, hein. Les êtres sont comme des porcs. Les porcs épics, quand ils sont séparés, ils ont froid, ils se rapprochent pour se réchauffer, mais aussitôt ils se piquent. Et donc de nouveau ils s'éloignent, vous voyez, et c'est sans fin, hein. Voilà. Alors ce n'est pas une vision réjouissante, mais ça existe, et à partir du moment où ça existe, il ne faut pas le condamner. Alors aujourd'hui nous allons parler du désir et du temps pour clore ce premier tiers du livre, hein. Et bon, cette émission sera peut-être, comment dire, pessimiste, mais j'engage les auditeurs à écouter la prochaine, où nous, enfin, avec Agapé, nous aurons une vision quand même beaucoup plus gratifiante, hein. Alors, je dirais que la passion qui a Eros pour base, elle se veut éternelle, et donc elle nie son ennemi majeur. Quel est-il son ennemi majeur ? C'est le temps qui passe, parce que le temps refroidit tout, le temps crée une entropie, alors entropie, hein, E-N-T-R-O-P-I-E, hein. Ça n'a rien à voir avec anthropos, l'homme, hein. Donc l'entropie, c'est le refroidissement, la dissipation de l'énergie dans un système clos. Je ne suis pas physicien, mais enfin, j'emprunte ça au terme, au vocabulaire des physiciens. C'est le deuxième principe de la thermodynamique, le principe de Carnot-Clausius, hein, qui nous dit que dans un système clos, l'énergie va se dissiper et il va se produire alors un refroidissement. Pour prendre une deuxième métaphore, je dirais que le temps, c'est comme la rouille qui se dépose sur les métaux et qui ronge tout, hein. L'ennemi d'Eros, effectivement, c'est le fait d'assumer le temps, hein. La passion, Eros refuse, je dirais, de passer du champagne aux tisanes et du romantisme au rhumatisme, si vous voulez, hein. Dans cette période de fête, nous avons débouché, certains l'ont fait, des bouteilles de champagne. Bon, après, il y a la tisane pour pouvoir digérer les excès. Eh bien, la passion refuse. La passion est toujours dans l'excès. Eros est toujours dans l'excès, hein. Elle refuse justement cette banalisation. Et la passion, elle est, suivant le titre d'un très beau livre de Ferdinand Alquier, un désir d'éternité. J'engage les auditeurs à lire ce livre, hein, qui est paru au PUF dans la collection Quadrige en 2008. Il a été réédité. Ferdinand Alquier, le désir d'éternité. La passion postule une éternité. En effet, on n'imagine pas Iseut, dans Tristan et Iseut, devenir Madame Tristan. C'est pas possible, hein. Il faut que les deux amants meurent jeunes, au sommet de leur passion, hein. On n'imagine pas Juliette devenir Madame Roméo, ça ne s'imagine pas. Juliette est très jeune, c'est l'amour adolescente, je crois qu'elle a 14 ans, Roméo a peut-être 16 ans, dans la pièce de Shakespeare, hein. Mais il faut que les deux amants meurent jeunes pour éterniser leur amour. Madame Roméo, Juliette n'en voudrait pas. Et il y a une phrase de La Rochefoucauld qui nous dit « Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu deux amants en cheveux blancs soupirer l'un pour l'autre. » Et c'est cette phrase de La Rochefoucauld que Julie dit à son amant Saint-Preux dans La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau pour justifier son refus de lui céder. Elle refuse de céder à celui qu'elle aime. Non pas tellement, il me semble, parce qu'elle est mariée à Monsieur de Volmar, mais en fait, elle refuse de s'abandonner à lui pour éviter qu'un jour sa passion ne décroisse, pour éviter qu'un jour, peut-être, il ne l'abandonne, vous voyez. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu deux amants en cheveux blancs soupirer l'un pour l'autre? Je crois qu'il y a une grande probabilité pour que la formulation soit vraie, hein. Et alors, la mort précoce des amants va être éterniser leurs sentiments, selon la logique que l'on a déjà vue de l'amour platonique. L'amour platonique, c'est l'amour qui refuse de la vie, finalement, refuse l'existence, hein. C'est le tout ou rien. Ou bien on a tout, le tout de la passion, l'étincelle, le grand feu, ou bien alors on décide de mourir, d'abandonner, voilà, hein. Tout perdre pour tout sauver, voilà. L'amour platonique. Et donc, on comprend pourquoi il est nécessaire que les amants meurent jeunes. Parce que la mort va transformer, selon le mot d'André Malraux, une vie en destin. La mort, elle arrête le temps, hein. Au cinéma, vous savez ce que c'est que l'arrêt sur image. L'image se fige, se fixe, en quelque sorte, hein. Eh bien, ça, c'est le destin des amants dans la logique d'Eros. C'est pour ça qu'ils sont dans une éternelle jeunesse. Ils sont réunis dans la mort. Il suffit d'écouter, par exemple, la mort d'Isolde dans l'opéra de Wagner sur le mythe de Tristan et Iseut. Je rappelle que Tristan et Iseut, c'est l'archétype d'Eros, l'archétype de l'amour-passion. C'est ainsi que le voit, par exemple, Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident, livre que j'ai déjà cité. Alors, vous voyez, Redouane, Peut-être que notre destin est le même que celui du bois. Quel est le destin du bois? Le bois, hein. Ou bien il brûle, ou bien il pourrit, vous voyez, hein. Donc Eros, qui refuse l'entropie, on pourrait risquer le mot de néganthropique, il a dans ce sens partie liée avec Thanatos, c'est-à-dire le désir de mourir. Mais non pas mourir à petit feu, comme ceux qui se contentent d'une vie médiocre. C'est mourir au contraire dans une grande flamme, comme le papillon, attiré par la chandelle, meurt de se brûler à cette flamme. Et l'amour qui fait vivre doit mourir pour que ce soit éternellement, en quelque sorte. C'est aussi l'amour des mystiques qui est une impatience de mourir. Par exemple, Sainte Thérèse d'Avila dit dans une magnifique formule « Je meurs de ne pas mourir ». Alors bien sûr, elle parle de l'amour de Dieu, hein, elle. Mais les amants pourraient reprendre cette formule à leur compte. Et donc, il faut brusquer les choses, en quelque sorte. Précipiter la mort, de la même façon que Gribouille, par peur de la pluie, va se noyer, en quelque sorte. Je pense aussi à l'héroïne du film de Patrice Leconte, Le mari de la coiffeuse, qui est sorti en 1990. C'est un grand petit film que j'engage tout le monde à revoir. Elle va effectivement se noyer, cette héroïne, car elle ne supporterait pas que celui qu'il aime maintenant, le personnage de Rochefort dans le film, cesse un jour de le faire. Mais évidemment, en faisant cela, elle n'a pas pensé qu'elle va désespérer son amant qui va rester tout seul. Alors c'est une nouvelle preuve qu'Eros est par principe et par définition égocentré, ne se soucie pas de l'autre, je dirais qu'il est même potentiellement irresponsable. Néanmoins, je comprends cette logique qui voit dans le temps le grand ennemi. Alors nous allons écouter maintenant une chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller, où on verra le sordide, mais à la fin il y a quand même un petit peu d'espoir. Écoutez.
C'est drôle. Ce qui était drôle à regarder. Et là, t'attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir. Afin d'y puiser le courage. De t'avouer que j'en ai marre de toi. Et de tes commérages. De ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez pour bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, oui, t'exagères. Tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler. Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Là, tu es belle à regarder. Tes bras tombant sur tes chaussures. Et ton vieux peignoir mal fermé. Et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour. Comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère. Car rien pour inspirer l'amour. Moi, mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot. Le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, toujours en compagnie de Michel Théron, méandre de l'amour. Alors, tu te laisses aller, tu te laisses
Alors, c'est une rupture.
C'est-à-dire, les sentiments se sont allés aussi.
Ah oui, voilà, on est passé du duo initial au duel, à la fin, à la haine. Mais je disais, à l'extrême fin de la chanson, il y a un regain d'espoir. Je voudrais que tu te laisses aller contre moi, contre mon cœur. Donc là, il y a ce qu'on appelle une antanaclase, c'est-à-dire la reprise d'une expression avec affectation d'un nouveau sens, en quelque sorte. Hein. Tu te laisses aller dans le premier sens, dans tout l'ensemble de la chanson, ça veut dire tu te négliges. Mais je voudrais que tu te laisses aller, c'est-à-dire que tu t'abandonnes comme au premier jour, vous voyez. C'est hélas là le destin de beaucoup de couples. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Redouane, mais nous verrons dans la troisième partie de mon livre, quand nous y serons, du bon usage de l'amour, comment faire en quelque sorte pour faire renaître un petit peu cette flamme. Donc, comme dit Brel, on a vu souvent d'un ancien volcan rejaillir le feu. Hein, voilà. Bon, comment sont des braises sur lesquelles il faudrait souffler, hein, pour que de nouveau la flamme. Je vous vois deviner de la tête, Redouane. Je sais pas si vous...
Non, parce que j'ai lu un commentaire récemment sur cette chanson en disant en fait c'est la chanson d'un lâche.
Ah, ne me quitte pas.
Oui, ne me quitte pas.
Je sais que vous aimez beaucoup Brel.
Et oui, pourtant, oui. J'aime beaucoup cette chanson. En fait, il n'y a pas de lâcheté en amour. Il y a de la faiblesse, il y a de la force, et parfois, quand il n'y a plus ni faiblesse ni force, c'est du laisser aller, effectivement.
Oui, je crois que Piaf avait dit à propos de Ne me quitte pas que c'était pas digne d'un homme. Vous voyez, ça retrouve, c'est une chanson d'un lâche, hein, qu'un homme ne devait pas pleurer comme ça. Il me semble avoir entendu ça. Hein.
Voilà. Oui, mais c'est aussi une époque. Hein, un homme, ça pleure pas.
Voilà.
Non, un homme, ça pleure aussi parce que.
Bien sûr. Bien sûr. Alors voilà, c'est un fait que le temps nous engloutit minute par minute. Hein. Chronos, le temps, en grec, dévore ses enfants. Voyez le tableau de Goya, Saturne. Hein. Saturne, c'est le nom latin de Chronos. Hein. Donc, si on ne devance pas le temps dans la mort, recherché ou nécessaire, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, il peut se passer une diminution progressive et inéluctable du désir. C'est le sujet du roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Hein. On y lit la chose suivante, « L'amour est étiré, il fallait le boire. » Alors s'installe le désamour, et toujours pour reprendre le mot de la Julie de Jean-Jacques Rousseau, « Pour cet trop aimé amant, on en vient à se haïr époux. » Vous voyez, hein. Donc l'époux tue en quelque sorte l'amant. Voilà. Alors certains vont prendre cela à la légère. Hein. Bon, évidemment, si on a un tempérament léger, superficiel, on va dire que bon ben si le temps fait passer l'amour, l'amour fait passer le temps, vous voyez. Hein. Mais quand on est plus sensible, pour beaucoup, à la fin, quand on constate la fin de l'amour, c'est effrayant. Hein. Car si c'est faiblesse que d'aimer, c'est une faiblesse encore plus grande que de cesser d'aimer. Hein. Même si, dans ce cas, c'est la souffrance qui nous quitte. Vous voyez, il semble que certaines âmes, c'est Camus qui dit ça dans L'Homme révolté, que certaines âmes sensibles soient moins effrayées par la douleur elle-même que par le fait qu'elle ne dure pas. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires tortures cesseront un jour. Un matin, après tant de désespoir, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini, vous voyez. Et ça, c'est tragique. Hein. Alors c'est vrai, bon, surtout si on regarde le destin de beaucoup de couples, hein, qui portent le deuil de leurs premiers instants, hein, voilà, hein, donc finalement... Vous savez, il y a des humoristes, on dit qu'est-ce que c'est que l'amour? Il dit, l'humoriste en question nous dit, c'est des grands mots avant, des petits mots pendant et des gros mots après, vous voyez, hein, d'où les disputes, etc. Hein. Alors ça commence par de tendres sentiments, hein, et ça finit par tant de ressentiments. Vous voyez, tendre sentiment, vous voyez, voilà, donc, alors, je ne sais pas, bon, on le constate, on le voit, hein. Par exemple, dans Le Chat, le film de Granier de Fer avec Gabin et Signoret, eh bien, il ne, vous l'avez vu, ce film, il ne communique que par,
c'est terrible,
il ne communique que par des petits papiers, hein. Il ne se parle plus, hein. Donc, voilà, ils écrivent sur des petits papiers, parce qu'elle a eu le malheur de tuer le chat de son compagnon, voyez, et ça c'est affreux, hein. Mais de notre côté, quand on aime, on voudrait aimer toujours, mais finalement, comme le dit La Rochefoucauld, nous nous consolons souvent par faiblesse, hein, des mots dont la raison n'a pas la force de nous consoler. Voyez par exemple la fin d'un amour de Swann de Proust, hein. La dernière phrase, hein. Proust nous montre un homme, ce Swann, qui a souffert beaucoup par un amour patient, pour jalousie aussi, etc., pour Odette de Crécy, hein. Et donc, à la fin, Swann est en chemin de fer et dans son compartiment, assis sur sa banquette, voici ce qu'il dit. Dire que j'ai gâché les meilleures années de ma vie, que j'ai eu mon plus grand amour, que j'ai voulu mourir pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre, vous voyez, hein. Donc, il a voulu mourir, puis maintenant, l'amour l'a quitté. Et c'est ce que Proust appelle les intermittences du cœur. Les intermittences du cœur, c'est le signe de notre finitude. Et loin d'être consolatrices, ces intermittences du cœur nous donnent l'idée du néant. Que reste-t-il de tous les serments? Que reste-t-il des promesses, hein? Tout cela s'écrit sur du vent, vous voyez. Donc, je pense, je sais pas pourquoi, redonne d'un seul coup à l'Ecclésiaste, hein, tout n'est que vanité et souffle du vent, hein, c'est ça, Redouane. Hein.
Oui, oui.
C'est très pessimiste.
Il y a un temps pour tout, voilà. Un temps pour aimer,
un temps pour mourir, oui, oui. C'est Coëlette, hein, ou l'Ecclésiaste. C'est pessimiste, c'est même nihiliste, hein, d'un point de vue,
non, c'est de la sagesse. Je pense que c'est la sagesse, c'est-à-dire que ce qu'on fait n'est pas éternel. Si on le fait à vue d'homme, voilà, c'est cette manière. C'est-à-dire, si nos sentiments ne reposent que sur des événements factuels, ça sera aussi un bonheur factuel. Le bonheur va au-delà. C'est dans l'amour qu'on peut avoir pour un homme ou pour une femme, peut aller au-delà du temps, si cet amour n'est pas, comme vous le dites, égocentré. C'est-à-dire, je l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il m'apporte. Et c'est vrai que cet amour peut se transformer en haine quand, par exemple, les petits tics de l'autre, les petits tocs de l'autre, au départ, on les trouve mignons,
voilà.
Mais à force de vivre avec, on finit par tomber énervé.
Les tocs, c'est troubles obsessionnels compulsifs, oui. Oui, ben, il suffit de lire Madame Bovary de Flaubert. Hein. Eh bien, elle trouve à la longue que son mari a des doigts carrés. Hein. Jamais elle n'avait remarqué les doigts aussi carrés. Elle les remarque maintenant. Non, c'est aussi carré. Charles était long à manger, hein. Elle grignotait quelques noisettes et s'amusait avec son couteau de faire des raies sur la toile cirée. Vous voyez là le décalage qu'il y a entre le mari et la femme, hein. Lui mange lentement, c'est un homme placide. Elle est quasiment anorexique, elle grignote quelque chose, voilà. Et puis, sa conversation était plate comme un trottoir de rue, dit aussi Flaubert à propos de Charles, du pauvre Charles Bovary. Donc là, il y a vraiment malentendu, c'est un mur qui sépare justement les deux époux. Alors, c'est vrai que cela existe. Alors, bien sûr, nous verrons, j'annonce toujours les émissions futures avec Agapé, autre chose. Je répète que je ne parle que d'Eros aujourd'hui, hein, du désir. Hein. Eh bien, comment faire pour assumer cela? Alors, j'ai choisi comme deuxième pause musicale la chanson de Ferré que tout le monde connaît, qui est magnifique, et par sa musique et par ses paroles, mais qui est d'une extrême tristesse, surtout vers la fin.